Mille plaisirs des utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour.
Open, ikke tom. Vinden blåser gjennom meg. Jeg griper den ikke. Ouvert, pas vide. Le vent souffle à travers moi. Je ne le saisis pas.
Frédéric, bonjour.
Bonjour, Phil.
Donc voilà, on se connaît depuis hier. Hein. Tu m'as écrit un petit mail et puis te voilà, tu apparais. c'est magique. Et tu m'as déjà dit hier deux, trois choses qui m'ont vraiment interpellé. Donc, tu es quelqu'un dans le réseau polyamour du Grand Nord. Ça, je suis impressionné par ça. Mais tu vas en dire un peu plus. Et alors, tu m'as parlé de quelques jours assez fabuleux, assez magiques comme ça, où vous êtes partis 14 personnes pendant 10 jours, dans un lieu en pleine nature. Ça fait rêver. Est-ce que tu peux décrire un petit peu comme ça, comme une sorte de grand tableau, quand tu te lèves le matin, tu sors... c'était un chalet en bois ? C'était en bois le chalet ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on voit quand on sort ? C'est quoi autour ? Enfin voilà.
Voilà. le chalet, c'était en pleine nature. C'était un grand lac, là. On avait des canaux. On avait une sauna. C'était des conditions un peu primitives. On n'avait pas une douche, mais il y a un lac très grand. Et c'était pas... On ne se sentait pas qu'on n'était pas propre. On était bien propre, là. Mais c'était aussi 26 minutes... avec le bus de Oslo. Voilà, on était assez proche des civilisations. Si on fait une définition que les villes sont la civilisation, on est assez proche. Les 10 jours qu'on avait ensemble, c'était plein d'activités et c'était autogestion.
Oui.
Oui. Self-organized. Et ça veut dire que tous les gens qui étaient là ont fait des stages, ont fait des suggestions pour les thèmes qu'on parlait. Et les jours, c'était... On a fait le petit déjeuner, on a fait quelque chose dans le matin. Ça peut être, si ça fait du soleil, on fait... peut-être quelque chose dehors, si ça fait de la pluie, on fait quelque chose à l'intérieur. Et on avait le déjeuner, et le temps au milieu du jour, c'était un peu temps libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et après, le souper, dans le dîner, dans le soir, on a fait des activités aussi. Ça pourrait être encore des discussions, ça pourrait être de faire des danses, body painting, ça, on a fait beaucoup de choses, massage aussi. Oui, c'était une multitude d'activités qu'on fait et c'était bien le mélange entre les choses verbales et les choses plus ludiques. Parce que je trouve des fois une des dangers avec les rencontres polyamoureux, c'est qu'on parle et on parle et on parle et on parle encore un peu. Et c'est important de parler et mettre des mots sur ce qu'on vit, mais c'est aussi de mettre des actions qui continuent les mots qu'on dit. Eh bien, on va se voir au petit déjeuner, on va faire des choses ensemble. Comment on va faire avec des choses pratiques dans ces jours qu'on est ensemble.
Et donc, ça revient un petit peu en arrière, parce que justement, tu as dit mettre des mots. Ça revient un petit peu en arrière dans ton parcours. Tu m'as confié qu'en 2005, tu avais plusieurs relations. Et puis, tu as eu envie de changer. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, une envie de changer un petit peu le mode de fonctionnement. Et donc, là, c'était vraiment une découverte et une envie de partager alors avec d'autres, c'est ça ?
Oui. Comme j'ai voyagé beaucoup, c'est facile d'avoir des relations dans des endroits différents. Et à un moment, j'avais 5 relations parallèles monogame, comme je dis. Ça veut dire que chaque de ces relations, l'autre personne a pensé que c'est seulement avec nous deux que ça va passer. Et voilà, en ce temps-là, je n'ai pas menti. Je n'ai pas fait de mensonge. Je pense que ça, c'est un miracle. Mais je n'ai pas dit la vérité. Et le moment qu'une de mes amoureux a dit « Ah, tu as été avec cette femme-là », et c'était facile, je pourrais dire oui, mais j'ai dit non. C'était plus vite que moi que j'ai dit non.
Mm-hmm. C'est la réponse spontanée qui est venue à ce moment-là, comme ça. Ouais.
Et ce moment-là, j'ai fait un mensonge et j'ai dit « Ah, c'est ça que je ne voulais pas faire. Et maintenant, je le fais. Ok. Moi et cette amoureuse-là a passé du temps séparés. Mais quand on s'est revus 2 mois plus tard, on a chacun découvert la possibilité avec le polyamour qu'il y avait une langue qui pouvait expliquer, qui pouvait, oui, que c'était pas seulement de tricher. Ça, c'était un problème parce que les relations avec les femmes que j'avais, c'était tout des relations avec des personnes que je me sentais connecté avec, que c'était des relations d'amour. Et j'étais très surpris que c'était possible d'avoir ces relations. Voilà, j'avais pas une langue pour expliquer ça.
Et donc, on a compris que tu viens de Norvège, donc moi, ça m'impressionne. Les gens qui écoutent l'émission, peut-être aussi. Mais donc, ça, c'était en 2005. Et suite à cette première envie de sortir de relations monogames fermées, tu as dit ce que tu vivais à chacun. Chacun a fait son choix de rester avec toi ou de ne pas rester. Et toi, tu as écrit un livre aussi suite à ça, tu m'as dit, je pense. Tu as eu envie de communiquer. Et en tout cas, il y a eu de l'écriture dans un premier temps, c'est ça?
Oui, il y a beaucoup. Le raison de voyager, j'ai voyagé en Europe. Depuis 2002, c'était d'écrire et j'ai écrit beaucoup. Maintenant, j'ai le sentiment que je commence à savoir les choses que je voulais. Maintenant, je me sens équipé de finir ce livre-là. Mm-hmm. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas les mots, je ne connaissais pas que c'était possible. Et maintenant, je suis capable, je pense, de finir ça. Et maintenant, je cherche aussi une vie un peu plus stable pour avoir le temps de finir, parce que quand on voyage tout le temps, c'est difficile d'avoir la concentration chaque jour pour faire ça. Il faut avoir une vie qui est un peu pas excitante pour écrire des choses qui bougent des fois. Pour aller dans la matière, il faut dire non à... Faut exclure le monde un peu pour être dans l'intérieur.
Ok, donc je sais aussi que tu es en relation avec trois personnes, je pense. Hein. Une personne en Suisse, en Bretagne, tu vis en Allemagne. Tu es aussi, peut-être que j'oublie quelqu'un, mais c'était l'envie de venir avec plusieurs relations pour toi importantes et amoureuses et organiser une sorte de camp de vacances, de réflexion avec un groupe polyamoureux, avec d'autres personnes qui venaient de loin aussi, qui faisaient des trajets beaucoup plus longs. Et donc là, vous avez quand même mis ensemble un système comme ça de réflexion. Tous les jours, il y avait comme des petits ateliers, c'est ça?
Oui. Et pour moi, c'était très beau d'avoir tous mes amoureux là. Et même si c'était des situations difficiles de temps en temps, et des petits dramas qui se passaient, mais... Je suis très heureux de sentir comment la groupe a aidé. Il y avait des gens qui ont travaillé beaucoup avec des relations et aussi avec une vue positive sur la polyamour, parce qu'ils vivent ça eux-mêmes. Et de voir cette expérience, comment ça a aidé la situation, c'était très fort. Ces 10 jours, oui, ça venait des gens de toute l'Europe. Et dans la nature de Norvège, et aussi d'être pas dans une ville, de pas être dans un café où il faut aller après 3 heures parce que ça va fermer. D'avoir cette perspective de temps, ça donne vraiment une possibilité de se connaître soi-même et de connaître les autres.
Et donc, ça veut dire partir du vécu du groupe. Donc, il s'est passé des choses dans le groupe, et le groupe a pu entendre ça et réagir, c'est ça? Ça, c'est important, ça.
Oui, oui. Et je pense que c'était très authentique ce qui se passait, parce que quand il y avait un problème, ok, on a discuté, il y a des temps où il y a les femmes qui ont fait un groupe pour discuter ce problème-là, et les hommes ont fait un autre. Des différentes constellations donnent souvent des différentes réponses. Et, oui, c'est la force encore de la polyamorie qu'on n'est pas seul. Pour moi, même dans une relation quand on est en 3 ou en 4, d'avoir quelqu'un qu'on peut parler, qui peut voir aussi des relations de l'extérieur, ça aide beaucoup. Ça donne une perspective. Oui, très bien.
Pourtant, la société nous dit que c'est bien d'être seul, c'est bien d'être à deux, chacun sa petite maison, chacun ses vacances, chacun sa voiture. Toi, tu penses quoi de ça? Il y a une grosse pression quand même de la société qui nous dit que ça, c'est bien.
Oui, je pense que la polyamour offre la possibilité de partager et bien sûr, quand on a son voiture et son machine à laver, etc., on a une certaine liberté. On a la liberté de laver les vêtements quand on veut et aller avec la voiture quand on veut. Mais on a besoin d'avoir plus d'argent, voilà, pour avoir cette liberté. Quand on a partage une voiture, par exemple, il faut s'accorder avec les autres, mais on a une liberté parce qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent pour cette voiture. Pour moi, dans mes relations, je pense que c'est important que l'idée qu'on peut vivre ensemble, même en ce moment qu'on est dans même quatre différents pays, en Bretagne, en Norvège, en Suisse, et en Flierhof, ça c'est une petite ferme où je vis actuellement en Allemagne. Mais l'idée est qu'on peut être ensemble tout. Et le sentiment d'une tribu, d'une famille choisie, ça c'est aussi une des raisons. Et moi j'étais frustré par les rencontres dans une bar où on ne peut pas jouer. Il faut jouer le jeu d'être dans une bar, être poli et parler. Et moi, j'aime bien de jouer, de chanter, de danser, faire des jeux. Oui, faire des jeux plus... Aussi, ce que se passait dans le jour ici en Norvège, c'était... Oui, il y avait une possibilité d'avoir la sexualité, mais c'est plutôt... les câlins qu'on pouvait donner, les caresses. Et ça, c'est un peu la beauté d'avoir un espace où ça, c'est accepté de montrer son amour. Et de montrer son amour, c'est pas la même chose de montrer son sexualité, mais ils sont liés.
Est-ce que tu as l'impression que ça amenait chez toi et chez les autres une sorte de paix intérieure?
Oui. Ça fait ça et ça fait vraiment charger les batteries. Et je pense après une semaine, 10 jours comme ça, on est beaucoup plus fort quand on est dans la vie normale, parce que on a déjà beaucoup d'images de beauté avec beaucoup de personnes qui ont partagé le même espace et ça reste dans le corps et ça peut donner du force, du courage. Quand quelqu'un te demande des questions, mais c'est pas possible. Oui, tu sais, parce que tu as vécu ça pour ces 10 jours, mais avec plusieurs personnes.
Et après-midi, c'est vacances. Donc, ça veut dire des petits ateliers plus récréatifs.
Le temps au milieu du jour, c'était plutôt pour les gens de faire des choses qu'ils voulaient faire, à deux, à trois. Et oui, c'était plutôt le temps récréatif.
Mais c'était un temps important aussi, ça.
Ça, c'est un temps important. Quand on a fait les plans, on a pensé d'avoir des ateliers le matin et le jour aussi. Mais c'était simplement ça, c'était trop. Parce qu'on on revient dans le soir et faire des choses ensemble là. Voilà, c'est trop d'avoir un programme comme ça. Et voilà, on a laissé ça espace libre, mais ça passait beaucoup de choses dans ce temps-là aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui en Norvège, tu as l'impression qu'il y a une nouvelle jeunesse ou il y a un nouvel élan comme ça, pour tenter d'autres fonctionnements? D'autres fonctionnements que la monogamie exclusive? Tu sens que ça résonne un peu, il y a une envie vraiment?
Oui.
Il y a une envie vraiment?
Oui. J'ai raconté beaucoup de gens qui veulent vivre une autre vie qu'ils sont offertes. Et voilà, ça c'est une des possibilités de vivre avec plusieurs de partenaires et être aussi honnête. Ça c'est le désir que je vois le plus, de voir comment ça c'est possible. Quand je vois les gens, ils ne sont pas trop différents qu'ici en Belge, mm-hmm. ou en France, ou en Allemagne. Et c'est une culture que je ne trouve pas que c'est pas... La sexualité, ce n'est pas la base, même s'il y a beaucoup de sexualité. Et c'est pas les échangistes, ça c'est une autre culture, une autre sport, je dis. Pour moi, le polyamour c'est aussi une ouverture sur beaucoup d'autres choses, parce que si on commence à partager le temps, l'amour, avec plusieurs, ça fait aussi des actions. Moi, je n'étais jamais très intéressé par la politique, mais je vois qu'il y a beaucoup de décisions politiques qu'il faut aussi voir. Mm-hmm. Pourquoi on ne peut pas, par exemple, faire des contrats avec 3 personnes pour vivre ensemble et avec les droits, sur l'hôpital, les enfants, des choses juridiques. Mm-hmm. Voilà. Et si on dit 3, pourquoi 5 ne peut pas faire ça? Ou 10.
Mais donc ça veut dire que toi, par rapport à la jalousie, puisque j'ai l'impression que réfléchir sur une jalousie qu'on peut avoir quand on est petit ou qu'on nous a appris de nos parents, est-ce que tu as fait déjà ce premier travail? Est-ce que c'est arrivé doucement? Est-ce que c'est à un moment donné une envie vraiment, où tu te sens vraiment libre de ça? Tu te sens pas jaloux?
Moi, je me sens pas jaloux. Mm-hmm. Je suis heureux quand mes amoureuses ont des autres amours. Je sens que s'il y a quelqu'un qui est plus fort que moi et il veut passer le temps avec eux et pas avec moi, voilà, je peux pas faire des choses de violence pour ce qu'il reste avec moi. Et ça, c'est mon expérience de polyamour de ces années. Il faut ouvrir, voilà. Mm-hmm. Et ouvrir, et ouvrir, et encore ouvrir. Parce que s'il vient quand tu vas ouvrir, beaucoup de fois et encore une fois, ça c'est quelque chose qui va rester. Et je suis heureux avec la personne qui a venu, est venu, est venu à moi. Et c'est important pour moi de ouvrir encore une fois. De pas dire, ah, c'est ça que je veux. Oui, c'est la seule chose que je dis. Il faut ouvrir, il faut laisser libre, il faut avoir confiance qu'il va revenir. Si tu aimes quelqu'un, il faut le laisser aller.
Donc ça veut dire être bien aussi avec soi-même, comme compagnon de vie de soi-même aussi.
Oui, je dis que j'ai une relation en ce moment avec 5 personnes, ça veut dire 4 personnes. C'est 3 personnes, c'est mes 3 amoureuses, et c'est avec moi. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, la relation avec moi, si je ne suis pas en connexion avec moi, je ne peux pas être en connexion avec les autres. Et ça, c'est facile d'oublier, et des fois, quand dans les relations, parce qu'il fait toutes les demandes, il demande, « Oh, viens ici, Frédéric, viens ici, viens ici, viens ici. » Il faut aussi avoir la force de dire, ah oui, attends un peu, Frédéric a aussi besoin de Frédéric. et de pas... Parce que c'est beaucoup d'excitation et beaucoup de désir de dire « oui, je viens ». C'est bien de dire « oui ». Oui, oui. Mais si on dit « oui » seulement tout le temps, ouais, faut dire « non » des fois. Parce que si on n'est pas capable de dire « non », le « oui », ça n'a pas une valeur. Voilà. Et c'est important de savoir que si je fais quelque chose pour moi, ça ne veut dire pas que je fais quelque chose contre quelqu'un d'autre. Oui, bien
sûr. Et donc, à travers ces relations que tu as avec d'autres femmes, principalement, est-ce que donc, derrière ces femmes, parfois d'autres hommes sont là aussi ? Tu as pu en rencontrer certains, il y a parfois des gens qui te comprennent, d'autres un peu moins. Est-ce que, comment tu fais alors pour vraiment tenter de créer un dialogue avec ces hommes ?
Mon expérience, quand mes amoureuses ont rencontré mes autres amoureuses, ça donnait plutôt un sentiment de « Ah, c'est bien, voilà, je vois que ça c'est une belle femme. » Et ça ne me fait pas sentir dévalorisé, ça me fait sentir plus fort. Et je vois qu'il y a encore des raisons de t'aimer. Et pour moi, quand je rencontre les amoureux de mes amoureuses, ça me fait sentir la même chose. C'est, oui, mes amoureux sont, oui, ils sont, c'est possible de les aimer avec aussi les autres. Et aussi, cet amour, ça m'inspire plus d'aimer. Et c'est difficile à expliquer cet sentiment de chaleur, de lumière, d'être rond. Qui vient dans ce moment-là.
J'aime bien cette image rond. C'est important, c'est pas mal ça. Dans un monde un peu carré, on met du rond, on met des courbes.
Oui. oui. Beaucoup de gens disent « je t'aime » ou... Mais des fois, avec mes partenaires, je dis « je nous aime ».
Voilà.
Je aime cette « nous » qu'on est maintenant, et ça peut être une « nous » de deux, une « nous » de trois, une « nous » de quatre. Et ça me semble peut-être plus juste, parce que le « je » que j'aime en une « toi », c'est pas la même qu'en autre « toi ».
Voilà, c'est ça. Donc le mot, c'est le mot différent. Hein? On est dans des relations à chaque fois différentes.
Oui. Mais c'est aussi, je vois, même si les femmes dans ma vie en ce moment sont très différentes, je vois aussi des choses qui ils sont pas même les mêmes, mais c'est des choses qui aussi qui fait que je peux reconnaître des différents aspects de moi dans eux, et je suis très heureux de pas dire oh, Faut seulement avoir cette part de moi. Ok, faut oublier les autres. Et quelqu'un a dit que ah, comment tu décris l'amour, c'est un peu cynique parce que oh, tu aimes les bras d'elle, tu aimes les jambes d'elle et tu aimes le sein d'elle et tu les mets ensemble et tu fais une sorte de Frankenstein's.
on connaît.
Ouais. Mais ça, c'est seulement de voir les choses sexuelles ou corporelles. Mais si j'aime de faire... parce qu'une de mes amoureuses, j'aime bien de jouer avec les mots avec elle. Voilà, elle est très littéraire. Et on peut parler de choses qui sont magnifiques. Avec une autre, c'est ouais, la photographie. J'aime bien comment on voit les choses... Et avec le troisième, c'est plutôt comment on chante ensemble. Voilà, on peut chanter tous les trois, mais c'est des différentes qualités qui... Et ce que je fais avec une, ça peut venir et enrichir les autres.
Donc je sais aussi que tu es dans le monde artistique, hein. Tu m'as dit que tu faisais du théâtre en Norvège, du théâtre d'improvisation, des chants. Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu aux artistes, un peu ouvrir la route, un peu montrer, ou à travers les créations, Est-ce que tu as envie aussi de faire passer des messages un peu universels comme ça?
Oui, j'ai déjà
fait. Ouverture, quoi.
Oui, j'ai déjà fait des workshops, des stages de chanter, par exemple. Mm-hmm. Et c'est, je dis qu'on peut faire les workshops même sans ouvrir la bouche et faire un son, parce que c'est vraiment sur la communication qu'on travaille. Comment on fonctionne ensemble. Par exemple, si on chante et la seule instruction, c'est quand tu touches une des autres, tu fais un son.
D'accord.
C'est beaucoup avec des signes physiques, pas nécessaire de toucher, mais qu'on peut voir aussi si on réellement communique. On fait une communication réelle. Et aussi, j'écris beaucoup. C'est des textes qui n'est pas encore publié. Tous mes textes courts, je les publie tout de suite, mais les textes plus longs, voilà. C'est plus de thèmes avec la polyamoureuse, la polyamour, et aussi avec une sexualité plus fluide, parce que même si moi, je suis attiré par les femmes, Je ne suis pas d'accord qu'on est dans des boîtes si fixes comme hétéro, homo, bi. Ça ne me semble pas juste. Parce que moi, je pense qu'on a un côté féminin et masculin. Mm-hmm. Et je peux aimer une femme de mon côté masculin. Et je peux aussi aimer une femme de mon côté féminin. Le plus difficile, c'est d'aimer un homme d'un côté masculin. Ça, je suis encore en train d'apprendre. Et c'est aussi nécessaire que... Ce n'est pas nécessaire que je dois faire tout. Si ça, ce n'est pas naturel, voilà, je ne le fais pas. Mais je vois que ça enrichit mon amour des femmes aussi, d'être capable d'ouvrir pour aimer l'homme qui existe aussi dans la femme. Si oui, je peux aimer ça. Voilà, ça c'est de encore ouvrir.
Est-ce que pour toi ça fait suite au grand mouvement des années 70, des années 70, où la femme a commencé à parler un peu plus d'elle-même, à vouloir demander des choses, à proposer? Est-ce que tu penses que 40 ans plus tard, ce que tu dis là n'est pas en connexion justement avec ce premier travail de prendre la parole, comme ont fait les femmes dans ces années-là? Est-ce que ce n'est pas une suite un peu logique en fait?
Oui, il y a toujours quelque chose qui était avant.
Oui.
Et on peut voir aussi le fin de siècle, oui. À Vienne, à Paris, Berlin, où il y a aussi un mouvement avant la guerre qui était très ouverte, qui était très... où on a le cabaret, on a une sexualité qui était...
Où la femme s'habille en garçon, c'est des choses comme ça. C'était les premiers pas pour oser un peu.
Oui. Et je pense que quand on a été après la guerre, il y avait beaucoup une temps de... le temps de consommation où on a fait la famille à deux adultes et deux enfants. Ok, il faut avoir ton maison, il faut avoir ton voiture et tout ça. Et ça, c'était aussi une façon de couper les grandes familles ou les familles
nombreuses.
Les familles nombreuses. Et ça, c'est très bien pour acheter les choses et vendre les choses. Mais je pense dans une famille, on était déjà après la guerre et beaucoup de familles étaient cassées.
Oui.
Mais une famille qui est plus grande, il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider avec « Ok, tu vas faire une maison. Ok, moi, je vais aider avec ça. » Et maintenant qu'on a une société et quand quelqu'un dans la famille va t'aider, il a aussi une certaine responsabilité. Il ne va pas faire un mauvais travail parce que tu es en famille.
Oui, c'est ça. Il y a une dynamique de la famille qui, quelque part, crée un peu... une petite autarcie, comme ça, un petit fonctionnement qui se nourrit. Et donc, toi, tu es en train de dire que l'idée de faire des petites familles était plus intéressant au niveau commercial, c'est ça? Pour que les gens soient plus frustrés ou plus isolés ou plus dépendants?
Par exemple, il y a une île en Irlande. Sur cette île-là, ça vit 250 personnes.
Ouais.
Une personne-là, il veut avoir réparé le toit de son maison. Et après, quelqu'un dit, il a fait ça. Et une autre a dit, mais tu n'as pas fait une facture et tu n'as pas fait le papier que c'est bien fait. Et l'homme qui a dit ça, non, on vit sur cette île-là, on est 250 personnes. Si l'homme-là n'a pas fait un bon travail, il ne va pas avoir de travail. Demain. Et je pense que si on est dans de plus petite communauté qu'on se connaît, on est, j'espère, plus capable de venir dans cette situation pour avoir cette confiance. Et bien sûr, la polyamour, c'est beaucoup de confiance. Et bien moi, je suis dans une relation avec deux femmes qu'on n'utilise pas les préservatifs quand on est ensemble. Et on a fait aussi une liste, qu'est-ce que c'est, on pense c'est bien de faire ont dans notre relation et qu'est-ce que c'est qu'on peut bien faire avec les gens qui n'est pas dans nos relations. Eh bien, le sperme dans la bouche, le oral sexe, qu'est-ce que c'est qui est accepté? Bien sûr, avec le sexe oral, c'est toujours un risque. Mm-hmm. Mais si on a même parlé de ça et dit « Ok, on accepte ça », tous les gens ont fait des papiers pour tester pour le sida. Mm-hmm. Et les autres tests, quand on était en Oslo et on a fait les tests, j'ai dit clairement à la femme qui a fait le test avec moi, le docteur, que moi, je ne fais pas ça pour moi, mais je fais ça pour mes amoureuses. Parce que je veux qu'ils soient sécures, au moins mm-hmm. les choses que je peux savoir. Et elle était un peu... Oui, tu as plusieurs de relations. Oui, j'ai plusieurs de relations. Et, mm-hmm. et elle était un peu surprise. J'ai fait ça encore une autre fois, et dans cette fois, c'est l'homme, il s'est dit, ah, oui, c'est très bien. C'est plus facile de comprendre ce que tu parles, parce qu'il mm-hmm. y a beaucoup de gens qui viennent ici et disent, oh, mon mari, il est fidèle.
Oui, oui.
Et je ne pense pas qu'il est capable de faire comme ça. Et ça, c'est le vrai problème. Oui, c'est vrai. Et maintenant, quand quelqu'un est ouvert sur ce thème-là, c'est beaucoup. Mm-hmm. Oui, c'est moins le problème. Voilà, on a fait on a parlé avant. Je pense que si on parle une heure avant, ça fait qu'on n'a pas besoin de parler les 10 heures après.
Oui, oui, oui. C'est la prévention, c'est la confiance, c'est ouvrir le dialogue. C'est impressionnant, hein, je veux dire, ton parcours, moi, ça m'impressionne.
Oui, oui, bien sûr. Mais de prendre le temps de parler, ça... C'est essentiel et aussi, je pense, de mettre les mots sur papier. C'est pas que les mots sur le papier, c'est des choses qui ne peuvent pas être changées, mais ça fait plus facile aussi quand on rencontre une nouvelle partenaire. C'est OK, ici, c'est comme ça. Quand on rencontre une nouvelle partenaire, on peut dire c'est comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on est d'accord. S'il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord, dis-le et on peut le changer. Mais on va le discuter
ensemble.
Oui.
Ça veut dire que quelqu'un de nouveau qui rentre dans le petit groupe, il doit être aussi accepté par tout le monde?
Si on a une relation... Si on a une relation préservatif, ce n'est pas un problème.
D'accord.
Parce qu'une des femmes que j'ai relation avec, on a encore le préservatif parce que le marié d'elle n'est pas complètement sûr de sa relation. Et je pense qu'on donne un peu de temps. Et pour moi, ce n'est pas un problème. Et je pense que c'est meilleur de prendre ce temps-là mm-hmm. et qu'il peut aussi avoir le temps d'avoir la confiance qu'on fait ce qu'on dit. C'est pas un très bon mot, une relation préservative ou une relation condom, mais c'est clair.
Oui, oui, oui.
On peut dire aussi une relation barrière, mais je préfère la relation préservative. Et ça n'a rien à faire avec l'amour. Mm-hmm. C'est pas moins important, c'est simplement qu'en ce moment, dans cette relation-là, on a fait cette décision. Et j'espère qu'on va changer ça dans un certain temps, mais ce n'est pas une décision que moi et elle peut faire sans le mari d'elle, même s'il n'est pas dans notre cercle, et pas sans mes deux partenaires. Voilà. Cette mm-hmm. décision, il faut faire ensemble. Mm-hmm. Et c'est prématuré encore.
C'est ça. Ok, alors, juste hors micro, mais Élodie, c'est Clémentine, en fait. Sur le site, hein. Okay. Dans les émissions radio aussi.
Ok.
Donc, Frédéric, aujourd'hui, c'était lundi, et je t'ai vu partir avec ton petit sac à dos. J'ai voulu te déposer à une station de métro, à Simonis, pour les Bruxellois. Et puis tu m'as dit, non, je vais marcher, moi j'aime bien découvrir la ville. Et tu as fait Simonis-Schumann, à pied en passant par le centre. Qu'est-ce que tu as ressenti en traversant Bruxelles?
la dernière phrase encore.
Qu'est-ce que tu as ressenti en traversant Bruxelles?
Oh. Eh bien, j'ai pensé, ah, c'est longtemps que j'ai vraiment marché dans une ville inconnue. Et c'était bien de voir les gens. Des fois, je me demandais, comment sont-ils les vêtements ici? Comment ils s'habillent en Bruxelles? C'est bien sûr que ce n'est pas comment ils s'habillent en Paris. Et c'est pour moi un mélange de les Pays-Bas et la France.
D'accord.
Et c'est pas la même chose que du Pays-Bas et c'est pas la même chose que je suis habitué de la France. J'ai pris le temps de écouter quelle langue ils parlent maintenant, s'ils parlent le flamand ou s'ils parlent français. Simplement de marcher, c'est pour moi une façon de vider les pensées et voir. Oui. C'est un temps de passage pour aussi m'ouvrir à rencontrer Clémentine, voilà. Une autre personne, oui.
Alors Clémentine qui était dans l'émission Polyplaisir des Utopies, osait rentrer dans le troisième millénaire. J'invite les gens à rentrer dans le troisième millénaire, donc c'était pour moi une belle expérience radiophonique déjà il y a un an et demi. Et Clémentine, ben, elle est là souvent aussi au Café Poly, régulièrement avec d'autres polyamoureux à Bruxelles, notamment maintenant la maison Arc-en-Ciel, mais ça on en parlera peut-être un petit peu après parce que tu aimes bien apparemment. Tu as peut-être un projet avec nous, donc on va en reparler, de faire des rencontres là-bas. Mais donc tu as rencontré Clémentine, et donc tu as marché, tu as traversé toute la ville. Et est-ce que tu l'as reconnue facilement? Comment ça s'est passé la rencontre? Parce que tu ne l'avais jamais vue en fait.
Oui, on se devoir rencontrer devant le marchand de fleurs. À Schumann. Et oui, c'était une pluie énorme qui a venu jusqu'à l'avenue. Je pense que nous avons nous vu tout de suite. Avant, j'étais là 5 ou 6 minutes avant, j'ai vu toutes les femmes qui avaient elle a dit qu'elle doit avoir des pantalons noirs et des cheveux bruns. Voilà. Ah, oui, possible. Non. Ah, non. Mais quand elle est venue, c'était aucun doute, c'est elle.
D'accord.
Et on a été sur le petit toit où on a les bicyclettes.
Ce que tu ne sais pas, Frédéric, c'est qu'elle m'a téléphoné à 12:05 pour demander à quoi il ressemble, Frédéric. Donc moi, j'ai dit, écoute, il n'est pas bien rasé, il a les cheveux très courts. Et voilà, donc elle avait un petit avantage que tu ne savais pas.
Eh bien, c'est comme ça. Hein?
Voilà.
Mais je vais prendre ça comme une tu l'as aidé à me trouver facilement.
Voilà.
Et
voilà. C'était dans les yeux.
Oui. Mais c'était pas. Je pense qu'on nous avait trouvé très vite aussi, si tu n'as rien dit.
Voilà.
Parce que ça, c'est mon expérience avec. Eh bien, quand on fait des rencontres, on a les yeux polyamour. On cherche. Ah, c'est quelqu'un qui vient dans une bar, il cherche un peu. Ok, c'est possible, c'est lui.
D'accord.
Voilà, je trouve que c'est. Voilà, quand je te rencontrais toi aussi dans le bar au soleil, ah,
oui.
Je t'ai vu tout de suite. Mais bien, j'avais une image de toi.
Oui, voilà.
C'était pas. Je pensais, ah, c'est une version. Ça me donnait aussi l'impression, ah, un peu Jacques Brel.
Ah, oui, d'accord, merci.
Oui, c'était pas mal. Ça m'a intégré les premiers moments. Parce
que
si j'ai vu seulement l'image, je pense que tu bouges différemment que j'ai imaginé sur l'image.
D'accord.
Oui. Et voilà. Oui, c'était pas difficile. C'est pas difficile de rencontrer les gens quand on sait que quelqu'un va venir. Et bien sûr, j'ai aussi le téléphone. Et je peux faire un petit...
Voilà.
Oui. Ça, c'est le...
Donc la rencontre a eu lieu et il y a eu vraiment du dialogue, il y a eu une envie comme ça. Toi, tu es venu aussi vers moi en disant, voilà, j'ai envie de rencontrer quelques polyamoureux belges. Clémentine a répondu à l'appel et puis vous avez passé un petit moment ensemble. Quoi.
Oui, on a parlé. C'est bien avec les limites d'être dans une place publique et aussi de manger en même temps. Mais je pense qu'on a parlé un peu de nos relations, j'ai vu des choses de ce qu'elle a parlé qui me ressemblaient à d'autres choses. Et comme je aussi connais à une de ces relations.
Ah oui, c'est ça, c'est juste.
Ça fait aussi plus facile la communication.
Oui, donc ça, on peut dire aussi que notre grand ami Guilin, de polyamour.info à Paris, ben lui est parti avec son petit sac à dos, il y a 3-4 mois, jusqu'en Norvège. Moi, ça m'a impressionné, ça.
Oui. Il a fait un voyage plutôt en Suède, mais la dernière partie de la voyage, c'était en Norvège. Il a resté avec moi et on a parlé un peu, oui. Oui, on a parlé. C'est les choses que le poly fait quand il se rencontre, je pense, il se parle.
Et ça faisait suite à une rencontre en Allemagne, donc ça bouge pas mal en Europe. Tu as rencontré Guilain en Allemagne à l'époque.
Oui, à le Polycamp en Berlin et... aussi mon amoureux qui est maintenant en Bretagne, mon amoureuse qui est en Bretagne, elle connaît aussi Guilain un tout petit peu. Et voilà, je pense que je pense que tous les polyamoureux connaissent une autre polyamoureux qui connaît une autre polyamoureux qui etc. Et ça c'est un peu, ça c'est intéressant. Le Facebook, c'est une très facile de voir tous les polyamoureux dans les différents pays. C'est pas une espace qu'on peut faire des contrats, mais on peut faire le contact.
Voilà.
Je pense que Facebook, ça fonctionne bien pour faire les premiers contacts. Après ça, je me doute sur Facebook c'est efficace, mais
Et donc, à travers toutes ces rencontres de polyamoureux d'ici, d'ailleurs, des autres pays, est-ce que tu as ce sentiment donc qu'il y a vraiment une envie de partager, une envie d'échanger, de ce message, de dire c'est possible de trouver du bonheur ? Et on se doute aussi que, ok, on trouve du bonheur. Est-ce qu'un polyamoureux va rencontrer d'autres difficultés qu'un monogame ne va jamais connaître ?
Bien sûr. C'est comme si le polyamoureux va avoir d'autres plaisirs.
Voilà.
Par exemple, une matin avec mes deux amoureuses qui restent dans le lit et moi qui va faire le petit déjeuner.
D'accord.
Et écouter le petit bruit qu'il fait et moi qui est dans la cuisine. Et c'est bien de les laisser toutes seules. Moi, je suis bien nourrie d'amour et de savoir qu'il a un moment pour eux sans moi et que je peux venir là, mais c'est bien de rester et les laisser. Et, ou de marcher trois dans les rues. Et des fois sentir que, oui, c'est tellement fort. Et aussi voir les regards des autres.
Ah oui, c'est intéressant parce que dans le groupe ici à Bruxelles, en Belgique, on a beaucoup de rencontres. C'est encore un peu récent comme mouvement. Et c'est pas si évident de trouver dans le groupe des personnes qui s'affichent dans le lieu public avec, on va dire, deux partenaires. Et là, toi, tu as déjà vécu plusieurs fois cette expérience. Ça doit être assez particulier.
Oui, et c'est amusant comment les gens regardent et ils regardent une deuxième fois. C'est un, deux, trois. Ou comment il y a un sourire que je me souviens très fort. Comme elle comprenait la situation, je ne suis pas sûr, mais c'était très beau, cette acceptance. Des gens qui ne voient pas dans cette direction, c'est très clair qu'ils ne voient pas que nous sommes trois et qu'on a les mains. Ou c'est les différences entre si moi je suis dans le centre ou si c'est femme qui est dans le centre et une autre. Ça, c'est aussi des choses intéressantes. Je propose qu'on va faire une marche marathon de Bruxelles de triade qu'on marche dans trois. On doit voir et voir marcher dans les rues un peu, voir où c'est confortable de marcher en trois.
D'accord.
Et essayer de chercher de regarder dans les yeux de chacun qu'on rencontre. Et c'est ce sujet qu'on fait une date pour ça.
D'accord.
Et on dit à tous les polyamoureux qui veulent venir qu'on va faire une petite marche. On peut faire ça de la maison de Phil jusqu'à Robert Schumann, par exemple.
Oui, donc on peut aussi parler de la maison Arc-en-Ciel, qui est tout près de la Grand Place, qui est un peu un nouveau lieu pour nous. Partir du centre, pour nous, voilà, la maison Arc-en-Ciel, Rainbow House. Et puis, oui, Schumann, pour nous, c'est l'Europe, ici à Bruxelles. On aime bien, et puis parfois on aime moins, mais il y a des moments, des lieux peut-être symboliques aussi. Oui, une petite marche. C'est ça, donc c'est découvrir le plaisir de croiser d'autres personnes, c'est ça?
Oui. Moi, je sais que quand moi et une de mes partenaires avait femme, avait aussi une rencontre avec un homme, et on a, pour moi, c'est un peu plus difficile de marcher avec la main d'un homme.
Non, c'est bon.
Pour moi, c'est un peu plus difficile de marcher main dans un homme, mais c'était pas difficile. C'était aussi intéressant de sentir comment c'est de marcher avec Isabelle, avec deux hommes à chaque côté.
C'est ça. Ah oui, c'est encore différent, ça.
C'est encore différent. Et ça fait... oui, c'est plus amusant que voir du télé ou aller au cinéma, parce que c'est vrai. Mm-hmm. Et de sentir les réactions. Non, je pense que fait une petite marche. On commence à Rainbow House, on fait une marche et mm-hmm. on revient.
D'accord.
Je pense que c'est une bonne idée. Je pense une heure, ça doit être bien. Et après, on rencontre comment c'était. Et on peut aussi faire des petites jeux. Parce que c'est, des fois, c'est des jeux de facilement changer qui est dans le centre. Et moi, j'ai des jeux pour ça. Et aussi des jeux que c'est important quand on marche à trois, que c'est facile à laisser les mains des fois, qu'on n'est pas obligé de marcher en trois. Et des fois, je me souviens la première fois que j'ai marché en trois, des fois, j'ai dit, OK, maintenant, si je laisse les mains, c'est simplement que j'ai besoin de respirer un peu.
Et ça, on le sent parfois aussi dans les couples monogames. Des jeunes amoureux viennent sont encore tout frais dans la rencontre, et puis on se tient l'autre, on le tient longtemps, on s'accroche un petit peu comme ça. Donc en même temps, c'est chouette. Et puis en même temps, on peut sentir aussi qu'il y a tout ce dialogue avec l'autre, donc ma liberté, le nous, hein, tu disais tantôt le nous, moi, le nous, et puis les autres. Hein, donc c'est un peu chaque fois des cercles comme ça qui sont rassemblés dans des cercles plus petits. Donc lâcher la main, ben oui, c'est aussi être là aussi près de l'autre, mais être mm-hmm. moins dans une envie comme ça de montrer.
Oui, il y a tout le différent de marcher ensemble, d'avoir les mains, et aussi le troisième d'être vraiment qu'est-ce que c'est, on appelle ça quand on est
tenir par les épaules, oui. Embrasser, enfin rassembler, oui.
Quand on marche trois et on tenir par les épaules et de sentir la différence entre les trois positions là, oui. c'est intéressant. Pour l'expérience, je voudrais dire que c'est intéressant de voir comment c'est, si c'est trois hommes qui marchent comme ça, si c'est trois femmes, si c'est deux hommes et une femme et deux hommes. Toutes les variations là, ouais. J'aime bien de faire une petite expérience comme ça.
Toi, tu as déjà fait ça?
J'ai déjà fait ça en Oslo. Et pour moi, c'était aussi des quartiers, parts de ville où c'était plus difficile. Mm-hmm. Parce qu'il y a des parts de ville où je travaille plus et de sentir que maintenant, les gens là, ils peuvent me voir. C'était pas que j'avais peur qu'ils me voient, mais le sentiment que non, je suis pas prêt d'expliquer maintenant, je n'ai pas le désir de ça. Et ça, c'était la raison des fois que maintenant je laisse les mains parce que je ne veux pas venir dans ce mode d'avoir besoin d'expliquer.
Et ça me fait un petit peu penser aussi à tout le chemin que les homosexuels ont fait, il y a 30 ans déjà, 40 ans, d'oser s'afficher dans l'espace public. Est-ce que tu penses que le mouvement polyamoureux est un petit peu aussi dans cette phase de commencer à oser un peu se montrer? On peut faire une analogie entre les deux.
Oui, oui. Le mouvement homosexuel, c'est les choses qu'il a fait dans les années 50 et 60. Ouais. On est là aussi avec le mouvement polyamoureux. Mais dans une façon, c'est plus facile.
Ouais.
Un homme avec deux femmes, c'est pas trop difficile. C'est peut-être plus difficile deux hommes avec une femme, mm-hmm. mais déjà, c'est pas impossible. Mais on a un peu de travail de faire, de simplement visualiser, de faire ça.
C'est ça.
Oui. C'est encore, on a encore un peu de chemin de faire que c'est complètement...
Ça fait penser à Marie-Paul, Patricia et Christine, qui sont trois personnes homosexuelles qui sont venues au micro ici aussi, de Polyplaisir des Utopies. Et donc, il y a un interview que j'ai pu faire à deux, chaque fois à deux. Mais elles se connaissent toutes les trois. Il y a aussi d'autres personnes un peu autour de la triade. C'était intéressant de voir comment ça circulait entre elles, comment il y avait l'envie que ça fonctionne aussi. Donc, dans le domaine homosexuel, polyamoureux, quoi. Donc là, je pense que ça bouge aussi un petit peu.
Oui, mon surprise, c'est que des fois, les homosexuels, c'est ceux qui avaient le plus grand problème d'accepter la vie polyamoureuse. Parce que maintenant, on a travaillé, je pense que c'est qu'on a travaillé autant pour être accepté qu'on peut avoir adopter des enfants, qu'on peut se marier, on peut ça. Et maintenant, ne fais pas ça, ne parle pas trop, ça va seulement faire des problèmes pour nous, je sens que...
Oui, c'est ça.
Mais ce que j'aime beaucoup avec la polyamour, c'est que c'est plus grand que homosexualité, hétérosexualité, bisexualité.
C'est en dehors des barrières, quoi.
C'est des autres barrières, mais c'est un plus grand
espace.
Mm-hmm. Oui, avec la polyamour et la polygamie, c'est si on commence avec la polygamie, aussi qu'on peut marier à plusieurs, par exemple en Canada,
ouais.
Il y a des choses qui se passent pour légaliser ou dire que si on dit que c'est pas légal de se marier, ouais. c'est contre la loi, la loi de Canada.
Oui. Mm-hmm.
Et voilà, si un pays comme Canada fait ça, ça doit changer comment on pense dans les États-Unis, dans l'Europe.
Oui, oui. Je vais voir parfois un site sur Yahoo Group, Polyamour Yahoo Group. Depuis quelques années, on sent beaucoup de commentaires entre eux sur l'envie de légaliser, de proposer des lois qui vont justement dans le sens de l'ouverture, quoi. Je suis étonné de voir qu'ils pensent déjà tout ça là-bas, oui.
Oui, si Canada ouvre la porte pour la polyamour, ça va donner aussi des modèles pour comment faire avec les hôpitaux, comment faire le droit avec les enfants.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, c'est pas de trouver une mariage. Mm-hmm. Le mariage, je pense, c'est pas un bon modèle même pour les couples.
C'est ça.
C'est plutôt de trouver quelque chose qui est tellement bien que aussi les couples disent « Mais nous veut ça aussi. Nous veut ça. » C'est
ça.
Et ça, c'est mon désir qu'on peut faire. Il y a en Amérique, il y a les alternatives du mariage qui fait beaucoup de travail pour organiser. Il dit que pour organiser les choses qu'on a, mm-hmm. on ne doit pas faire un contrat qui aussi fait régulation sur la sexualité. Sur...
Tu connais le PACS en France, tu as entendu parler?
Je ne connais pas, mais je crois que c'est... Je ne connais pas trop, mais je connais un peu.
D'accord.
Et je pense que ça, c'est une bien direction bonne direction pour faire ça.
Mm-hmm. Eh bien, écoute, un grand merci, Frédéric. Donc, ton désir, c'était de rencontrer quelques polyamoureux ici à Bruxelles, mais je suis sûr que tu reviendras.
Oui, et comme de temps en temps, je vais faire aussi des choses, parce que maintenant, je vis 3 heures de Bruxelles, et je vais vivre 3 heures de Bruxelles pour au moins les prochains 6-7 mois. Et j'espère que, parce que je vis en ce moment sur une ferme, où il y a aussi des activités, des workshops, des stages, une grande maison, et il y a place pour 30 visiteurs. Voilà, je suis sûr qu'on va essayer de faire ouvrir la possibilité pour ceux qui le veulent, qu'ils peuvent passer un week-end, une semaine peut-être mmh. ensemble, pour aussi vivre la polyamour dans une façon que ce n'est pas possible de vivre quand on est dans toutes ces petites maisons.
Oui,
et,
oui, bien sûr.
Et je pense qu'on est bien libéré par le d'être dans un autre endroit qu'on mm-hmm. est normal. Mm-hmm. Et quand on revient dans l'espace où on vit habituellement,
on a rechargé les batteries, on voit des choses qu'on peut changer. Eh bien, bienvenue à la polyamour.
Après cette belle invitation, Frédéric, je vais donc rappeler que sur polyamour.be, tu as un pseudo qui s'appelle Fille or Femme. Et donc, comme il y a un petit système de messagerie dans le site, ben, les gens qui nous écoutent peuvent écrire aussi, peut-être dans cette petite boîte. Merci beaucoup, vraiment, c'était une belle rencontre. Et on se retrouve sûrement un autre jour avec encore de belles idées à partager.
Eh bien, je veux finir et de dire un petit salut à toutes mes amoureuses et les amoureux et amoureuses de mes amoureux et les amoureux de mes amoureux, de les amoureux, etc. etc. C'est un bel cercle.
Et donc encore merci aussi à Radio Campus pour qui ben, c'est une belle aventure donc, de partager ces émissions. On rappelle que c'est le deuxième mardi que nous sommes diffusés à 11h, ainsi que le quatrième jeudi à 15h. Voilà, à bientôt, bisous bisous. Qui illustrent cette entrevue sont Sieste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin de l'émission, Orange Bud Iced Tea Pêche du groupe Xype Totec, musique disponible sur le site de musique libre Jamendo et electrobel.be. Cette émission est autoproduite sous licence Creative Commons 2.5. Vos réactions, commentaires, propositions ou réécoutes de l'émission sur le site de polyamour.be. Et pour les amateurs de rencontres et d'échanges sur le sujet des amours pluriels, des polycafés sont organisés chaque mois à la Maison Arc-en-Ciel à Bruxelles. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs, des utopies.